Alors nous sommes dans ce qu'on appelle la période des fêtes. Mais quand on regarde un peu autour de soi, tout le monde n'est pas à la fête. Il y a des personnes qui sont contentes et puis il y a des personnes qui ont des épreuves. Dans ma famille, il y a une cousine qui est décédée il y a quelques jours d'un cancer du cerveau. Et ses enfants et même sa mère aussi sont dévastés. Mon beau-frère est décédé l'année dernière, à l'époque de Noël. Et donc chaque Noël, pour les enfants, pour son épouse, c'est quelque chose de lourd. Et il n'arrive pas que du bien dans la vie. Il y a des épreuves, il y a des bénédictions et des épreuves. Et j'aimerais qu'on regarde ce verset de Job, Job 1, 21, cette parole de cet homme de Dieu. Job, chapitre 1, verset 21. C'est juste avant le livre des psaumes. Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut beaucoup de foi pour parler comme ça. Job venait de tout perdre, tout perdre. Il avait une vie bénie, une vie riche, il était assez riche, bien portant, des enfants, tout se passait bien, des troupeaux, des serviteurs, et d'un seul coup, tout lui a été repris. La Bible nous dit que c'est Satan qui s'est attaqué à sa famille, à sa maison. Et même à sa propre santé. Et Job répond à cette perte totale. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Quand on a accepté le Seigneur dans sa vie, on est entré dans le plan de Dieu. Et ce plan est merveilleux parce que Dieu nous aime. Et quand on est dans le plan de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est pas seulement pour nous. Ça a un impact dans tout le plan de Dieu. Ce que je fais ou ne fais pas, ce qui m'arrive ou ne m'arrive pas, ça va avoir une influence sur ceux qui m'entourent, sur ma famille, sur mes amis, sur mes collègues, sur ceux qui m'entourent, mes concitoyens. Tout ce que l'on fait ou ne fait pas, quand on prie, ça a une influence même sur le monde. Quand on ne prie pas, on perd cette influence. Quand on témoigne de sa foi, ça a une influence. Quand on ne témoigne pas, il n'y a pas l'influence. Mais quand Dieu donne ou quand Dieu reprend, il y a quelque chose qui se passe, qui vient du plan de Dieu, et nous devons bénir le Seigneur. Et j'aimerais d'abord voir si Dieu nous a donné quelque chose cette année. Si cette année 2014, Dieu vous a donné des bénédictions matérielles, vous avez eu une prime, vous avez eu un héritage, vous avez eu un cadeau, des bénédictions matérielles. Mais il faut bénir le Seigneur. Dans le Proverbe 10, 22, je lis ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend riche. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole de Dieu? Ça veut dire que quand la richesse vient de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand on cherche à s'enrichir par tous les moyens, là, il y a du chagrin. Même beaucoup. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, dit la Bible. Mais quand cet argent ou cette bénédiction matérielle vient de Dieu, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La vraie richesse, c'est d'être béni par Dieu. Le croyant dépend entièrement de Dieu. Job était assez riche. Il a tout perdu en un instant, quasiment. Et il a dit, béni soit le nom de l'Éternel. Et puis il est resté des semaines comme ça, à souffrir, et puis Dieu l'a rétabli et lui a donné au double de ce qu'il avait perdu. Et il a dit, béni soit le nom de l'Éternel. Que j'ai le double, que j'ai la moitié, si je suis dans les bras du Seigneur, hein, je suis content. Ça s'appelle le contentement de la foi. On doit bénir le Seigneur quand on a beaucoup, on doit bénir le Seigneur quand on n'a pas assez. On doit apprendre à vivre, hein, dans l'abondance et dans la disette, dit la Bible. Et ça s'apprend, ça fait partie de la foi. Seigneur, tu m'as béni matériellement, je veux te remercier, je veux te louer cette année. L'année prochaine, je ne sais pas ce qui m'attend, peu importe, je bénirai ton nom quand même. Si cette année 2014, Dieu a exaucé certaines ou toutes vos prières, hein, vous pouvez y penser, est-ce que Dieu a exaucé mes prières cette année? C'est bon de compter les bienfaits de Dieu, de se rappeler, mais Seigneur, tu as exaucé là, 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 là. Alors bénissez le Seigneur. Dans le psaume 118, il y a ces paroles de David. Je vais vous les lire. Psaume 118, le verset 5 d'abord. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. J'étais dans la détresse. J'étais vraiment dans une situation très difficile. J'ai invoqué le Seigneur, il m'a répondu. Il m'a mis au large. J'aime bien cette expression. Hein. Il m'a mis au large, à l'abri. Merci Seigneur, je veux te bénir pour ce que tu as fait pour moi. On est tellement prompt à se plaindre, à compter les malheurs qu'on a eus. Mais il faut compter les délivrances, compter les exaucements. Toujours le psaume 118, le verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Il faut louer le Seigneur pour ses exaucements. Il nous a gratifié de sa bénédiction. Il a écouté notre prière. La prière est un moyen merveilleux que Dieu nous a laissé à nous qui croyons en lui. Vous savez que Dieu aurait pu ne pas mettre de prière. C'est-à-dire, il aurait dit, « Je décide tout à l'avance. » Tout est décidé, prédestiné, prédéterminé, vous n'avez qu'à avancer. Dans ce cas-là, pas besoin de prière puisque tout est décidé. Mais si Dieu a voulu qu'il y ait la prière, c'est parce que la prière nous permet de bouger le bras de Dieu, de l'invoquer dans la détresse, de dire « Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, regarde cette situation désespérée ou terrible. Seigneur, agis, ne tarde pas. » Jésus a raconté l'histoire de la veuve qui casse les pieds du juge injuste. Et il aura raconté cette histoire, ce juge qui ne voulait pas donner raison à cette veuve qui avait été spoliée. Et elle venait voir le juge, mais écoute, donne-moi raison, prononce un jugement en ma faveur. Et le juge, non, non, non. Et puis au bout d'un moment, il en a eu tellement assez que cette veuve l'importune, pardon, qu'il a dit, allez, je t'exauce. Et Jésus conclut cette petite histoire en disant « Dieu n'est pas comme le juge inique. » Il n'attend pas qu'on lui casse les pieds pour nous répondre. Hein. Dieu veut vous exaucer promptement. Une autre histoire que Jésus a racontée sur la prière, c'est l'importunité. Hein. Celui qui vient la nuit, vous demandez du pain à son voisin. Au milieu de la nuit, il est 3 heures du matin, vous êtes là dans vos rêves. Et puis toc, toc, toc. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Non, je dors. Oh non, non, non. Allez-vous-en, je dors. Alors, on se lève. On va ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est? Écoute, je viens de recevoir un étranger dans ma maison. Je dois l'accueillir, mais je n'ai rien à lui offrir. Et vous savez qu'à cette époque-là, au Moyen-Orient, la loi de l'hospitalité, vous avez un étranger qui vient, il faut lui donner à manger et à boire. Je n'ai rien, je n'ai même pas un bout de pain. Est-ce que tu as du pain que je peux lui donner? Alors, même si vous êtes fatigué, dit Jésus, hein, vous allez lui donner son pain à cause de son importunité, parce qu'il a insisté, il est venu vous voir. Et il conclut cette petite histoire pareil. Hein, Dieu n'a pas besoin qu'on le réveille en frappant 50 fois à la porte. Dieu entend nos prières. La prière doit être importune, doit dire « Seigneur, réponds, Seigneur, exauce, c'est merveilleux. » Et on néglige tellement la prière. Hein, j'ai lu plusieurs fois ce livre d'Adolphe Monod, qui est son journal de fin de vie. Il était atteint d'une maladie mortelle et il est resté plusieurs mois alité. Et comme il s'ennuyait, il a écrit un journal de ce qu'il ressentait, de ce qu'il vivait, de ses prières. Les chrétiens venaient le dimanche, il avait un culte dans sa chambre avec la Sainte Cène. Et dans son journal, il y a une chose qui m'a toujours frappé, qui ressort le plus. Il dit, « Seigneur, quand je fais le point, je suis là sur mon lit. Je comprends que j'ai négligé la prière toute ma vie. Si j'avais réalisé la puissance de la prière, l'importance de la prière. Mais moi, j'étais dans l'activisme, j'allais à droite, à gauche, je faisais ci, je faisais ça. Et au lieu de te demander, Seigneur, au lieu de t'invoquer, au lieu de te chercher, j'étais dans mes activités. Et maintenant que je vais mourir, je me rends compte que j'ai manqué de prière. C'est fort, hein, les mots d'un mourant, hein. J'ai manqué de prière. Alors ne soyons pas comme Adolphe Monod, hein. Utilisons ce moyen extraordinaire. La prière n'est pas un but, c'est un moyen. C'est ce contact avec notre Père. Notre Père veut qu'on lui demande des choses. Est-ce que vous qui êtes Père, est-ce que vous seriez content si votre enfant ne vous demandait jamais rien? S'il était totalement indépendant, voilà, il se débrouille tout seul. Alors, on est content, on est fier quand son enfant se débrouille tout seul. Mais qu'est-ce qu'on est content quand il vient vous voir, on dit « Papa, papa, tu peux me donner ça? » Ah, allez, maman. Ah, on aime cette petite voix. Hein, parce qu'on est content de faire plaisir à son enfant, on l'aime. Et notre Père céleste est comme ça, hein. Il veut nous exaucer. Il aime nous exaucer. Et nous, nous devons le bénir pour ça, le remercier pour la prière et pour l'exaucement. Peut-être que cette année 2014, vous avez été guéri d'une maladie et vous avez vu que c'était la main de Dieu qui vous a guéri. C'est quelque chose qui est rare, hein. Ça n'arrive pas toutes les 5 minutes, hein. Et il faut particulièrement bénir le Seigneur. Dans le deuxième livre des rois, il est arrivé quelque chose comme ça à un roi, le roi Ézéchias. Deux rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et c'était le cas, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. C'est une réponse extraordinaire, une guérison extraordinaire, comme c'est toujours le cas. Dieu a ajouté des années à la vie d'Ézéchias. Il lui a dit, le troisième jour, tu monteras au temple, hein, pour remercier. C'est un grand exaucement que d'être guéri par le Seigneur. Et il faut remercier le Seigneur spécialement pour ça. Si cette année, Dieu vous a donné une consolation particulière, vous avez ressenti la consolation de Dieu, bénissez le Seigneur. En 2 Corinthiens 1, 3, il est écrit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Notre Dieu n'est pas un être froid et lointain. Une sorte de Dieu barbu et froid et qui regarde le monde de loin et qui joue, hein, avec nous comme avec des petits soldats, qui a son plan, blam, bim, bloum. Dieu est près de sa créature, de sa création. Dieu est le Dieu des miséricordes et des consolations. La consolation, c'est quelque chose qui est. Il faut être proche pour consoler quelqu'un. Pour consoler quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il souffre, ce qu'il vit. Comment est-ce que Dieu peut comprendre ce qu'on vit, lui qui est un être spirituel et infini? Je vous pose la question. À travers Jésus-Christ. S'il est devenu un homme, c'est pour prendre nos péchés sur lui, dit la Bible, mais c'est aussi pour comprendre ce que vit un être humain. Jésus a souffert plus que tout autre homme, je dirais, hein? Il a vécu le deuil, il a vécu les coups, il a vécu la perte, il a vécu l'incompréhension, la violence, la haine, la tentation. Aucun être humain n'a été autant tenté que Jésus par le diable. Satan s'est acharné sur lui parce qu'il savait que c'était le Messie. Et Jésus a passé tout ça victorieusement, mais maintenant il comprend ce que nous on vit, ce qu'on ressent. Il comprend notre faiblesse. Quand Jésus est allé au jardin de Gethsémané, juste avant d'être arrêté, il a pris trois disciples, il a dit, venez, priez avec moi parce que j'ai besoin de soutien. Ils sont montés, là c'était la pleine nuit, et Jésus a commencé à prier pour faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ont fait les disciples là? Ils ont dormi. Ils n'ont pas réussi à veiller, ils étaient accablés de fatigue. Probablement aussi, c'est la fatigue spirituelle, hein, où Satan vous endort. Hein. Au moment où il faut prier, c'est là qu'on a envie le plus de dormir. Hein. Mais Jésus sait qu'on est comme ça, il sait qu'on est faible, il sait qu'on est fragile. Le Seigneur nous console quand on souffre. Quand on souffre, Dieu ne dit pas, bon, ben, tiens le coup, hein, ça va partir, tu vas voir, ça va se finir, il y a une sortie. Est-ce que c'est consolant? Pas vraiment, non. Ce qu'on a besoin quand on souffre maintenant, c'est quelqu'un qui compatit maintenant. Qui ne vous dit pas, ah ben, après, ça ira mieux. Non. Qui dit, je comprends ce que tu souffres, je suis avec toi dans cette douleur. Ça, c'est la consolation de Dieu. Dieu est avec nous dans l'épreuve. C'est quelque chose d'unique. Souvent, les incrédules, hein, dont j'étais avant, disent, oh, la foi en Dieu, c'est une béquille. Hein? C'est pour les gens faibles, les simples d'esprit. D'ailleurs, Jésus l'a dit, heureux les simples d'esprit. Donc, c'est pour les simples d'esprit qui ont besoin d'une béquille dans leur vie. Personnellement, depuis que je connais le Seigneur, Dieu n'est pas une béquille, il est un rocher. Il est une péninsule, il est une tour forte. Il est un appui incroyable dans ma vie. Avant, qu'est-ce que j'avais avant? Oui, j'avais des béquilles, oui. Et qui n'étaient pas de la même longueur, qui étaient fragiles. Qu'est-ce que j'avais comme béquille? J'avais la cigarette quand j'étais énervé. Pff, trouvais que ça console la cigarette. Ou j'avais l'alcool. Hein. J'avais les amusements, les folies. J'avais un peu de musique, j'essayais d'écouter de la musique pour oublier mes soucis. Maintenant, j'ai le Seigneur dans ma vie, ça change tout. Ce n'est pas une béquille, le Seigneur. J'entends pas beaucoup d'amen, mais je pense que vous devez le penser quand même. Et puis, si cette année 2014, Dieu vous a donné la vie éternelle, alors il faut particulièrement le bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé, qui est parmi nous, qui a été sauvé cette année? Vous avez reçu le Seigneur cette année. La vie éternelle, je pense que tu l'avais avant, Michel. Quelqu'un qui a été sauvé cette année? Alexandre. Loué soit Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Le psaume 40 dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Un cantique nouveau. Quand on accepte le Seigneur, quand il nous donne la vie, on se met à chanter, on se met à louer Dieu. Parce qu'on sait qu'on a la vie, on sait qu'on est sauvé, réconcilié avec Dieu. Que si on meurt, on va au ciel parce que Christ a payé notre dette. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-il écrit dans le Nouveau Testament? Mais j'arrive à la deuxième partie. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Si Dieu vous a ôté la santé, hein, j'ai parlé des guérisons, mais ça peut être l'inverse aussi. Vous avez perdu la santé. Vous étiez en pleine forme, tout allait bien, puis d'un seul coup, les problèmes de santé. Nous savons que cela va arriver, puisqu'en vieillissant, notre corps, hein, devient de plus en plus faible jusqu'à la mort. C'est tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, mais quand on le vit, c'est très dur à accepter, de perdre la santé. Paul, l'apôtre, a eu quelque chose comme ça. Paul était un homme très actif, il a évangélisé une grande partie de l'Empire romain, de l'Asie mineure, hein, la Turquie de l'époque. Il n'avait qu'une envie, c'est d'annoncer l'évangile à une autre personne chaque jour, hein, de plus en plus. Et un jour, il a été affligé d'un handicap, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais dans la deuxième épître aux Corinthiens, il se confie. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Alors, on ne sait pas ce que c'est cette écharde, mais c'est une sorte de handicap qu'il avait. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ou dans la maladie. Vous savez, quand dans le Nouveau Testament grec, maladie et faiblesse, c'est le même mot. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Quand on commence à connaître Dieu, on découvre que ce n'est pas parce que je perds quelque chose que Dieu me maudit ou que Dieu m'en veut ou qu'il me punit. Ce n'est pas parce que je perds la santé que je suis moins béni que les autres. Et même parfois, quand je perds la santé, je suis plus béni spirituellement. Pourquoi ? Parce que je découvre que la puissance de Dieu est dans la faiblesse. Quand on est trop fort soi-même, quand on dit, oh, moi j'y arrive, oh, je vais y arriver, t'inquiète pas, oh, rien ne m'arrête. C'est là qu'on est tenté de s'enorgueillir, de penser qu'on va y arriver soi-même. Mais quand on est faible, on n'a que Dieu. On n'a que la prière. On dit, Seigneur, là je ne peux pas, je suis malade. J'ai vraiment besoin de toi. C'est là aussi qu'on s'approche de Dieu, parce qu'on dit, Seigneur, je souffre, j'ai besoin de ta consolation. La maladie peut avoir un rôle bénéfique dans notre vie. Il y a, je dirais, des milliers de chrétiens qui l'ont raconté dans des livres, hein, ou dans leurs témoignages, que c'est en tombant malade qu'ils sont venus à Dieu, ou que c'est en tombant malade qu'ils sont revenus à Dieu parfois quand ils s'étaient éloignés. Si Dieu vous a repris vos forces, c'est la même chose, hein, dans 2 Corinthiens, le même passage, Paul écrit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est la même idée. Hein. C'est dur pour nous de comprendre, surtout si on est un homme. Hein, dans les hommes, on est habitués à cultiver la force. Hein. Voilà, les biscottos, les muscles, je suis fort, rien ne m'arrête, je peux tout affronter. Mais même si on peut affronter un certain nombre de choses, on ne peut pas tout affronter. Le premier ennemi qu'on ne peut pas affronter, c'est la mort, tout seul. Hein, et la maladie non plus. Ou quand on perd ses forces, on n'a plus rien. Mais justement, on a le Seigneur. Et là, on devient fort spirituellement. C'est étonnant comme des petits bouts de personnes remplies du Saint-Esprit ont pu faire des choses extraordinaires. Dans les réveils, dans les pays de l'Est, il y avait cette jeune fille, je ne sais pas si elle avait 12 ou 14 ans, qui a reçu le Seigneur dans sa vie et elle a commencé à témoigner de sa conversion, de sa joie. Et elle était tellement remplie de Dieu que tous ceux qui la côtoyaient, jeunes et vieux, étaient très impressionnés. Et elle est décédée quelques années après sa conversion. Elle était encore très jeune. Et à son enterrement, il n'y avait plus de place dans le cimetière. Tous les gens qui avaient croisé cette fille sont venus. Parce qu'ils, d'abord, elle était jeune, hein, c'est choquant, mais aussi parce qu'ils avaient vu en elle comme un ange. Ils ont dit, c'est vraiment, elle, quand elle m'a parlé de Jésus, j'ai fondu, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, elle le connaît. C'est évident qu'elle le connaît, ce Jésus, parce que la façon dont elle en parle, elle le connaît. Et beaucoup sont venus à la foi à travers cette jeune fille, frêle, fragile, malade et qui en est morte. La vraie force, hein, c'est lorsqu'on se confie en Dieu. Et si Dieu vous a repris votre santé, vos forces, bénissez-le aussi, comme a fait Job. Si Dieu vous a repris vos biens matériels, pas évident non plus, un chômage, un divorce, il y a des choses où on perd beaucoup. Et on perd son train de vie, c'est plus facile hein, de monter de train de vie que de descendre. Hein. Très difficile de descendre. Et là encore, on a la parole de Dieu qui nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Le chrétien, par la foi en Dieu, apprend à bénir Dieu quand ça va bien, quand il est riche, et à bénir Dieu quand il est pauvre. Ce sont deux cas où c'est difficile. Quand on est riche, on a tendance à oublier Dieu. À dire, ben, je suis riche, tout va bien, merci Seigneur une fois pour toutes, et bye bye. Maintenant, je vais m'amuser avec ma richesse, je vais dépenser tout ce que j'ai, comme je veux, comme il me plaît. Mais si Dieu nous confie des richesses et des biens matériels, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour l'investir dans les choses du royaume de Dieu. Nous en sommes gérants, nous sommes gérants de nos biens matériels. Et si Dieu fait qu'on est assez pauvre, et il y a des frères et sœurs dans le monde qui sont vraiment pauvres. En France, même les pauvres français sont encore riches par rapport à d'autres pauvres. Eh bien, ces pauvres-là, ils peuvent compter sur le Seigneur qui va pourvoir à leurs besoins. Pourquoi il y a plus de foi dans les pays les plus pauvres et moins de foi dans les pays les plus riches? Ce n'est pas un hasard. C'est que plus on est riche, plus on s'éloigne de Dieu. Plus on est pauvre, plus on s'approche de Dieu. Et on compte sur lui pour chaque chose. Et ces chrétiens-là, souvent, ils ont beaucoup plus d'exaucement à leur prière que nous. Parce qu'ils demandent pour tout. « Seigneur, j'ai rien à manger pour les enfants pour la fin de la semaine. Seigneur, j'ai besoin de toi, là. Il faut que tu nous trouves à manger. » Nous, on se dit « Qu'est-ce que je vais manger ce week-end ? Oh là là, je suis embêté, je ne sais pas quoi faire. » Eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Mais Dieu exauce leurs prières. Dieu répond quand on se confie en lui. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quand on se jette là-dedans, dans cet amour de l'argent, on est bien malheureux. Et quand Dieu nous garde ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, là, on est heureux parce qu'on ne pense pas à s'enrichir, on ne pense pas avoir plus ou moins. On utilise nos biens matériels et on pense aux relations avec Dieu et avec les êtres humains. Parce que le vrai bonheur, c'est dans les relations humaines. Les proverbes sont pleins de choses comme ça. Mieux vaut vivre à l'angle d'un toit qu'avec, je ne sais plus si c'est une femme querelleuse ou quelque chose comme ça. Dans une vaste maison. C'est un exemple des proverbes de la Bible, c'est-à-dire... Il vaut mieux avoir une chambre de bonne avec le Seigneur dans la paix qu'une vie, une maison de 15 pièces et des relations terribles entre un couple. C'est pour ça que les choses matérielles, on doit savoir s'en détacher parce qu'on va retourner nu quand on va mourir. Mais par contre, les relations avec les autres, c'est ça qu'il faut privilégier. Très souvent, quand quelqu'un meurt auprès de soi, on se dit... Oh, j'aurais dû passer plus de temps avec cette personne. J'aurais dû lui parler du Seigneur, j'aurais dû prier, j'aurais dû... Oui, mais j'aurais dû. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis, pour terminer, il y aurait beaucoup à dire, mais si Dieu ne vous a pas donné tout ce dont vous rêviez cette année, vous avez peut-être eu des rêves, des prières un peu, « Seigneur, oh, si je pouvais avoir ça !» Mais Dieu... ne vous l'a pas donné, ne vous a pas exaucé dans ce sens. Il y a plusieurs raisons à cela. Vous devez quand même bénir le Seigneur. Pourquoi ? Parce que peut-être ce n'était pas bon pour vous. Jacques nous dit que parfois on n'est pas exaucé parce qu'on demande mal, dans le but de satisfaire nos propres passions. Quand ce n'est pas bon pour nous, Dieu nous épargne une déception. Oh, si j'avais ça, et puis quand on a ça, on est déçu. Une autre raison pour laquelle Dieu n'a pas exaucé votre rêve, c'est peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à recevoir cette bénédiction. On ne pense pas toujours à ça, mais une bénédiction, ça se mérite quelque part. Il faut être prêt, disons. Ça ne se mérite pas, c'est une grâce, mais il faut être prêt à la recevoir. Imaginez qu'il y ait plein de gens qui viennent touchés par le Saint-Esprit, qui disent « Je veux être sauvé, je veux accepter le Seigneur ». Est-ce que vous êtes prêt à vous en occuper plusieurs heures par semaine ? À être là à l'église, à aider les gens à venir, à prier, à venir au Seigneur, parce que les pasteurs vont être complètement débordés. Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier de votre temps, de votre énergie, pour vous occuper des âmes qui viendraient ? Oui ou non ? Il y a une personne. Deux, merci. C'est bon. Oui, je vous fais confiance, je sais que dans votre cœur, vous voulez le faire. Mais Il faut être prêt à recevoir une bénédiction. Ça peut être aussi une bénédiction matérielle. Voilà, si Dieu me donne une grande bénédiction matérielle, une maison, une voiture, je ne sais pas, est-ce que je vais l'utiliser pour des bêtises ou est-ce que je vais l'utiliser à la gloire de Dieu? Est-ce que je vais le consacrer à Dieu? Si Dieu me donne un conjoint, est-ce que je vais l'aimer correctement, comme il faut? Ou est-ce que je vais dire, ah ben ça y est, je suis en couple, super. Et puis maintenant, on fait n'importe quoi. Quand Dieu bénit, il faut aussi être prêt. Et puis, la dernière raison pour laquelle la réponse n'est pas là, c'est qu'elle est en route, mais il faut patienter. La patience, ça c'est dur pour nous. Dieu répond, mais ça met un certain temps. Et la Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. En son temps, pas notre temps. Nous, hein, c'est fast-food, tout doit être rapide, hein, tout doit être immédiat, mais Dieu construit les choses. Dieu bâtit, Dieu fait pousser, fait croître. Regardez dans la nature, hein, un chêne, il ne pousse pas en 10 minutes. Un chêne, il faut 50 ans. Hein, et c'est pareil pour les êtres humains, il faut du temps. Mais quand la chose arrive, elle est belle, elle est parfaite, elle est au bon endroit. Alors, la Bible nous dit, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toute chose, pour ce qu'il a donné cette année et pour ce qu'il a ôté cette année. Parce que quand on est en relation avec le Seigneur, peu importe ce qu'il a donné ou ôté, ce qui compte, c'est d'avoir le Seigneur. C'est lui notre tout. Et quand on sait que Dieu ne s'en ira jamais, on ne pourra jamais perdre le Seigneur. La Bible dit que ceux qui ont cru sont scellés du Saint-Esprit qui avait été promis jusqu'au jour de la rédemption. On est scellés. On ne peut pas l'enlever, le sceau. La Bible dit que ceux qui sont sauvés le sont pour l'éternité. On est pardonné définitivement, une fois pour toutes, de nos péchés. Que si on est né de nouveau, on ne peut pas revenir en arrière. On est prédestiné, pour le coup, à aller dans la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est sûr d'être sauvé. On ne peut pas perdre le Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors, louons le Seigneur. Bénissons-le pour sa présence et sa fidélité. On va chanter un cantique, après quoi on va s'incliner dans la prière. On va chanter Dieu ta fidélité.